Les relations Mali-Mauritanie dérangent et c'est le moins qu'on puisse dire. Dès le début de l'enclenchement de l'embargo contre le Mali, Bamako a décidé de ne pas se laisser faire et c'est en se tournant vers l'axe de l'Est et également ses voisins qu'il a réussi à gagner en autosuffisance. Le Mali a commencé par le coton, la principale culture de rente. Face à la décision des pays de la CEDEAO de fermer leurs frontières avec le pays, le Mali s'est tourné vers son voisin, la Mauritanie, et a procédé le vendredi 25 février dernier au lancement de la première vague d'exportation de coton via la Mauritanie. Cette décision a été clairement le début de la mise en cause du franc CFA, le Mali étant capable d'entrer dans des systèmes d'échange basés sur le troc et éviter tout recours au franc CFA. Le Mali a ensuite élargi le pied de nez à l'encontre de l'embargo et a décidé d'étendre ses liens aériens par la Côte d'Ivoire, une décision qui a aussitôt fait réagir cet axe occidental qui a tant peur de tout perdre au Sahel et qui a mis pression sur les autorités ivoiriennes pour que ces dernières suspendent les liaisons entre Abidjan et Bamako. Le dernier coup anti-Mali-Mauritanie a été cette accusation de disparition de ressortissants mauritaniens. Accusés de crimes récurrents contre des ressortissants mauritaniens, les autorités maliennes ont annoncé mercredi soir, dans un communiqué, qu'une enquête sera ouverte pour élucider la situation, précisant qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes. D'après le communiqué consulté par l'agence Anadolu, à la suite de cet incident, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a échangé avec son homologue de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Oulcheikh El Ghazouani. Ainsi poursuit le document, le colonel Assimi Goïta, à l'issue de cet entretien, a instruit d'ouvrir une enquête pour élucider la situation et a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais afin d'engager des actions vigoureuses pour raffermir davantage la fraternité et la coopération entre nos pays, notamment dans le domaine de la gestion de nos frontières communes, de la défense et de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement a été informé de la convocation de l'ambassadeur du Mali en Mauritanie le 8 mars 2022 au ministère des Affaires étrangères, de coopération et des Mauritaniens de l'extérieur pour lui signifier l'assassinat de citoyens mauritaniens survenus sur le territoire malien vers notre frontière commune, note-t-on. Le Mali, en outre, présentait sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues au gouvernement et au peuple mauritanien, ainsi qu'aux familles des disparus, avant de condamner énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente qualité des relations entre les deux pays. Le Mali trouve une fois de plus troublant la survenance de ce genre d'incidents malheureux au moment où ce pays frère et ami, la République islamique de Mauritanie, apporte son soutien particulièrement pour l'approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UMOA, poursuit le document. Et d'ajouter qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent les droits humains et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. Mais qui veut nuire aux relations de Bamako avec ses voisins? La réponse n'est pas très difficile à deviner, puisque depuis que les pressions occidentales contre le Mali ont une en une échoué, l'axe colonialiste tente clairement à semer la discorde entre les pays africains, de ternir l'image de l'armée et surtout de ralentir le processus de l'expulsion de ses forces armées du Sahel. Le rapprochement du Mali avec la Russie est d'autant plus une autre source d'inquiétude pour une force colonialiste qui voit ses plans tomber à l'eau et qui ne cesse d'accumuler les échecs. Tout ceci pousse cet axe déstabilisateur de procéder à de nouveaux plans et de complots, la dernière étant cette tentative de semer la zizanie entre les pays voisins, comme d'ailleurs le cas Éthiopie-Soudan, RCA Tchad et RDC Ouganda. La résistance anti-occupation ne fait que commencer et c'est le début d'un long chemin durant lequel le peuple sahélien est prêt à tout pour préserver sa souveraineté. Au Cameroun, le nouvel ambassadeur des États-Unis est arrivé à Yaoundé et à peine arrivé, les plans de déstabilisation se multiplient au Cameroun. Une nomination qui a pris du temps, puisqu'aux États-Unis, le sénateur républicain Ted Cruz a bloqué pendant des mois l'année dernière la confirmation de plusieurs dizaines de responsables nommés par Joe Biden. Mais la nomination de cette personne n'est pas un hasard. Malgré ses paroles accueillantes et chaleureuses, le Cameroun se montre réticent à l'endroit des personnes LGBT. L'homosexualité au Cameroun est en effet punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. Cette décision montre clairement que l'administration US se fiche totalement de la loi et de la constitution camerounaise. Décidément, les auteurs des tentatives de déstabilisation en Afrique ne se cachent même plus. Les Camerounais les considèrent comme une provocation à ce poste. L'homosexualité est un comportement antinaturel parce que les coutumes et traditions africaines font de l'hétérosexualité le seul choix de la vie. Ce comportement ne peut être toléré. Du coup, un ambassadeur gay au Cameroun a été considéré comme une insulte au peuple camerounais. Mais les nouvelles démarches anti-Cameroun ne se limitent pas à cette nomination. La base militaire de Boulgo, située dans les régions de l'extrême nord du Cameroun, près de la frontière nigériane, a été prise pour cible mardi soir par des combattants de Boko Haram. L'attaque contre cette base de la force mixte multinationale de lutte contre Boko Haram a été attaquée vers 18h30 par une trentaine de terroristes lourdement armés et à bord de 3 pick-up, a indiqué le gouverneur de l'extrême nord, Bakary Midjiawa. Le bilan provisoire fait état d'un militaire camerounais tué et des blessés selon la même source. Les éléments de l'armée qui étaient à cette base ont énergiquement riposté contre les assaillants qui se sont repliés vers le Nigeria voisin. Cette riposte nous a permis de limiter les dégâts, a expliqué le général Bouba Dobegreo, commandant du secteur 1 de la force mixte multinationale. Mais est-ce réellement Boko Haram qui s'en prend aux forces armées camerounaises? Il est vrai qu'après les nombreux échecs quant à la déstabilisation du Cameroun, en ayant notamment lancé les séparatistes depuis les régions de l'extrême nord et sud du pays contre le Cameroun et vu l'échec essuyé grâce au lancement de l'opération Bamenda Clean, le groupe terroriste de Boko Haram a pris la relève. Dans le nord du Nigeria, le groupe terroriste Daesh s'y est installé pour continuer de déstabiliser le pays. Le groupe de Boko Haram a visiblement reçu les instructions de s'occuper du Cameroun. Le Cameroun a pu tenir tête aux séparatistes qui, comme dans la région du Tigré en Éthiopie, comptaient diviser le pays et y instaurer le chaos. Jusqu'à présent et avec l'aide de la population, l'armée camerounaise a pu gagner le conflit qui l'opposait aux séparatistes dans les zones anglophones téléguidées par les États-Unis. D'un autre côté, au Sahel comme dans la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest ou encore l'Afrique centrale, les populations sont les seules à pouvoir mettre un terme à ce genre de projet et il est clair que le peuple camerounais ne se laisserait aucune partie tiers à piétiner ses valeurs et principes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en milieu de semaine, la Guinée a refusé de prendre position. Conakry affirme observer la situation et attendre pour se prononcer sur le conflit en cours et joue pour l'instant la carte de la neutralité. De son côté, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les Nations Unies se sont dites préoccupées par l'absence d'échéance pour un retour rapide des civils au pouvoir en Guinée et ont réclamé un calendrier aux autorités de la transition dans ce pays dans les meilleurs délais. La Guinée se penche-t-elle de plus en plus vers l'axe de l'Est et ce, aux grandes dames des Occidentaux qui croyaient que ce pays était un terrain acquis?
Il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, c'est que la Russie est le leader dans les produits secondaires, la bauxite, etc., qui permet de fabriquer l'aluminium. L'aluminium qui est indispensable. Sans aluminium, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, etc. Et la Russie détient 80% du marché mondial. Quand on a appliqué les sanctions, en particulier les Européens, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Ils sont en train de faire une catastrophe dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine du gaz particulièrement. Ils sont en train de faire une catastrophe dans le domaine de l'aviation et ils sont en train de faire une catastrophe dans l'aluminium. On peut soupçonner les Américains, d'ailleurs, d'avoir voulu frapper toute l'économie mondiale, notamment la place de la Russie a prise de ça. La place que les Chinois ont mis, etc. Et parallèlement à cela, c'est l'avis notamment de plusieurs géopolitologues libanais, etc., on peut considérer que la réaction russe, elle va conduire à détruire l'économie globalisée occidentale, pas seulement la domination militaire de l'OTAN. Maintenant, la position de la Guinée-Conakry, elle est très intéressante. La Guinée-Conakry, ça a été le centre de ce qu'on a appelé la guerre des mines entre les groupes américains, les groupes chinois et russes et les groupes israéliens. Notamment dans cette guerre des mines est particulièrement impliqué George Soros, puisque l'homme qui est connu pour être un soi-disant philanthrope, il a surtout un empire financier dans le domaine des mines en Amérique latine, par exemple en Argentine et au Chili, et en Afrique, en Guinée proprement dit. Le coup d'État d'Alpha Condé visait à empêcher donc l'orientation de la Guinée-Conakry vers le bloc de l'Est, la Chine et la Russie. Le lieutenant-colonel Dombouya qui a pris le pouvoir, il était officier de liaison avec l'Africom et le coup d'État était appuyé par les Américains. Mais il semble que les choses ne tournent pas comme les Américains l'avaient prévu. Le lieutenant-colonel Dombouya, il va avant tout en vue les intérêts de son pays. Il sait particulièrement que les sanctions avec le Mali et le bras de fer avec la Russie ne peuvent rien lui rapporter de bien. C'est donc le sens de l'article que vous avez me demandé de commenter dans les médias français. C'est en fait une manœuvre pour essayer de fâcher la Russie avec la Chine en les opposant sur le marché donc de la bauxite, notamment le groupe russe Rusal qui est là-bas, alors qu'en réalité, l'opposition est entre les multinationales occidentales et le bloc de l'Est. C'est la même chose qu'actuellement dans le marché du gaz, où on essaye d'opposer l'Iran à la Russie alors qu'ils sont partenaires stratégiques. Et le guide iranien, d'ailleurs, il y a quelques jours, a dit qu'il ne fallait pas se laisser prendre à cette chose-là, que les Américains n'étaient pas sincères. Voilà donc ce qui se passe. Maintenant, en appliquant les sanctions contre la Russie, ils déséquilibrent tout le commerce mondial parce que la Russie, qui a une grande emprise sur le marché de l'aluminium, avec la déconnexion du système SWIFT, on ne voit pas très bien comment les échanges, les paiements de la Russie et comment les paiements à la Russie vont se faire, et on ne voit pas très bien comment les États. C'est bien de vouloir sanctionner quelqu'un, mais aujourd'hui, les sanctions ne sont plus l'arme absolue. La réaction de l'Iran, du Venezuela, de la Russie, par exemple, eh bien, les contre-sanctions font que l'arme est une arme à double tranchant. Et aujourd'hui, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, elles vont surtout pénaliser l'Europe et les firmes européennes. Par exemple, dans le domaine du gaz, mais c'est la même chose dans le domaine de l'aluminium, etc. On prévoit en Europe occidentale une récession pire que la firme des subprimes en 2008. Les Européens ont joué les apprentis sorciers, mais c'était le but des Américains. Le but principal de guerre en Ukraine des Américains, ce n'était pas tellement de contenir militairement la Russie, c'était de fracturer les économies européennes et de conquérir pour les hydrocarbures et le gaz de schiste américain le marché européen en empêchant les importations de la Russie. Des pays comme l'Allemagne, par exemple, ils vont payer très cher cette politique, en particulier avec la fermeture du gazoduc sous Nord Stream 2. Moi, je suis certain que les Américains ont très bien calculé leurs choses. Leur but, c'est de fracturer les économies européennes. Et cette politique, elle prend place dans la guerre commerciale Europe-États-Unis, commencée sous Ronald Reagan en 1980, et que Donald Trump a relancé à partir de 2018. Et par exemple, une opération comme le Brexit, c'était une opération de géopolitique américaine, favorisée par les réseaux qui soutenaient Donald Trump pour fracturer l'économie européenne. C'est toujours le même plan qui est en action. Et pour conclure, vous savez que Lénine parlait des idiots utiles en politique. On peut dire que les Européens dans cette affaire, ils sont les idiots utiles des États-Unis dans la géopolitique contre la Russie, aussi bien en Afrique qu'en Europe.
Le ministre sénégalais de l'économie Amadou Hott et le directeur général de la Banque arabe pour le développement pour la région Afrique, Sidi Oulta, ont signé le 5 mars 2022 deux accords de prêt pour des projets d'infrastructures de transport. Les prêts d'un montant total de 45 milliards de francs CFA représentent la contribution de l'institution pour accompagner la réalisation des projets dénommés Programme d'urgence des routes de désenclavement et Plan de modernisation urbaine, entrant tous deux dans le cadre du Plan Sénégal émergent 2014-2035. Le programme d'urgence des routes de désenclavement est une feuille de route gouvernementale visant à mettre en valeur le potentiel économique des régions agricoles, pastorales et minières du pays en les dotant d'infrastructures routières. Le PIB de l'Afrique du Sud a augmenté de 4,9% en 2021. Le produit intérieur brut PIB de l'Afrique du Sud a augmenté de 1,2% d'un trimestre sur l'autre au quatrième trimestre 2021, portant la croissance économique annuelle à 4,9%, a annoncé mardi le statisticien général Rizenga Maluleke. Selon M. Maluleke, les secteurs de l'exploitation minière, de l'agriculture et de la fabrication sont ceux qui ont enregistré les taux de croissance les plus élevés dans le pays. Il a également précisé que l'augmentation annuelle a été principalement attribuable à une activité économique plus élevée dans le secteur des finances, des services personnels et de la fabrication. M. Maluleke a enfin souligné que malgré la croissance, l'économie sud-africaine se situait toujours à un niveau similaire à celui du troisième trimestre de 2017. Ethiopian Airlines et Air Djibouti s'associent pour le transport maritime et aérien Chine-Afrique. La compagnie aérienne nationale éthiopienne Ethiopian Airlines a annoncé mardi qu'elle s'était associée à Air Djibouti et à Djibouti Industrial Park Operation. Dans un communiqué de presse, Ethiopian Airlines a révélé que l'accord prévoit que le fret sera transporté par voie maritime depuis des destinations chinoises vers la zone franche de Djibouti, puis acheminé par voie aérienne depuis l'aéroport international de Djibouti. Ethiopian Airlines a également révélé que cette collaboration conjointe, qui permettra de gagner du temps et de l'énergie sur le plan logistique, stimulera également la croissance du marché du fret en Afrique. L'accord de transport permet aux commerçants de commander leurs produits en Chine et de les faire acheminer vers l'Afrique via le port de Djibouti. D'autre part, Ethiopian Airlines facilite le transport aérien des marchandises vers différentes parties de l'Afrique grâce à son vaste réseau, a révélé Ethiopian Airlines. Au Togo, 2500 entreprises ont été créées cette année sur les deux premiers mois. Au cours du mois de février 2022, 1278 entreprises ont été nouvellement créées au Togo selon les statistiques du Centre de formalité des entreprises. En deux mois, c'est donc un total de 2578 établissements d'affaires qui sont installés de plus dans ce pays ouest-africain. Précisément, sur la période de janvier-février 2022, 1085 nouvelles entreprises ont été portées par des Togolais contre 193 par les étrangers. On note également que 904 ont été formalisées par des hommes et 374 par des femmes.